Voilà, donc comme on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, les Nations Unies ont déclaré l'année 2014 comme l'année internationale de cristallographie. Et cette technique, qui consiste donc à la diffraction des rayons X par un cristal, est née, en fait, il y a 100 ans, puisque le prix Nobel de physique en 1914 a été attribué à Max Fenlowe pour l'avoir découverte. C'est une technique qui, en fait, est l'outil le plus puissant pour étudier la structure de la matière. Ici, ceci se reflète dans le très grand nombre de prix Nobel, 28, qui sont liés plus ou moins directement à cette technique. Pour déterminer la structure atomique de macromolécules biologiques, il existe plusieurs techniques, mais la cristallographie des rayons X est celle qui va donner les informations les plus précises. Elle permet d'étudier de très grosses machineries cellulaires, comme la synthase d'acides gras, un complexe de 2,6 mégadalton, ou encore le ribosome, qui est un énorme assemblage de protéines et d'ARN qui catalyse la synthèse des protéines. Ici, la structure du ribosome, un complexe de 3,3 mégadalton. La cristallographie est complémentaire d'autres techniques en solution, comme la RMN ou la cryomicroscopie électronique. L'inconvénient de l'ARMN, c'est qu'elle s'intéresse à des objets de petite taille, mais son avantage, c'est qu'elle permet d'étudier la flexibilité et la dynamique sur une grande échelle de temps. Quant à la cryomicroscopie électronique, elle s'intéresse à d'énormes objets moléculaires, mais en général, elle est à résolution bien inférieure à la cristallographie. Donc ici, je vais m'intéresser exclusivement aux structures d'enzymes qui ont été résolues par cristallographie. Dans la première moitié du XXe siècle, l'action des enzymes était décrite par le principe de Pauling, qui dit qu'une enzyme se lie spécifiquement à l'état activé du substrat dans l'état de transition. Donc, de ce principe est née l'idée qu'on pourrait obtenir des anticorps catalytiques en les induisant contre un aptène qui mime l'état de transition. Donc, de tels anticorps catalytiques ont effectivement été obtenus, mais ils ont en général une efficacité catalytique bien inférieure à celle des enzymes. Et ceci est dû au fait qu'il leur manque une qualité intrinsèque aux enzymes, qui est leur très grande flexibilité. Il a été en effet montré que dans les premières structures cristallographiques, que les enzymes sont capables d'adopter plusieurs conformations, et en particulier que la liaison d'une molécule à un site très éloigné du site actif est capable de moduler l'activité catalytique d'une enzyme. Il a été récemment proposé que les enzymes agiraient finalement en diminuant la barrière thermique de réorganisation de la protéine, plutôt qu'en liant l'état de transition. Ce rôle crucial du mouvement des protéines dans la catalyse est étudié en particulier par la dynamique moléculaire, mais était également révélé par la cristallographie des rayons X. En effet, bien que cette technique utilise l'obtention d'un cristal, elle ne donne pas que des informations statiques et elle permet également de comprendre les changements de conformation des enzymes. Donc, pour comprendre ce mécanisme, il faut évidemment coupler les expériences biochimiques à l'analyse structurale. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment l'obtention de différentes structures d'une même enzyme, en complexe avec le substrat, le produit et différents intermédiaires réactionnels, va permettre de comprendre les différentes étapes du mécanisme et finalement, dans certains cas, de donner le film complet de l'action de l'enzyme lors de la catalyse. Donc, pour cela, je vais prendre quatre exemples d'enzymes qui utilisent un cofacteur ou non, d'enzymes qui agissent sur une petite molécule ou bien sur une macromolécule, d'enzymes qui utilisent un mécanisme radicalaire ou non. Donc, le premier exemple concerne la glucosamine 6-phosphate synthase, appelé GLMS, qui catalyse un transfert d'ammoniac entre deux petites molécules, un sucre, le fructose-6-phosphate, et un acide aminé, la glutamine. C'est une enzyme clé du métabolisme des exosamines, puisqu'elle catalyse, puisqu'elle est l'étape limitante de cette voie qui conduit à l'UTP-N-acétylglucosamine, qui est un précurseur de polymères structuraux tels que le peptidoglycane des parois des bactéries, la chitine des insectes et des champignons, ou encore les glycoprotéines chez les mammifères. Cette enzyme fait partie des amidotransférases glutamine dépendantes et elle catalyse deux demi-réactions qui ont lieu chacune dans des domaines structuraux distincts. Au niveau du domaine N-terminal, il y a hydrolyse de la glutamine pour former le glutamate et relarguer l'ammoniac, tandis qu'au niveau du domaine synthase C-terminal, il y a isorémérisation du fructose-6-phosphate pour former le glucose-6-phosphate qui est ensuite aminé grâce à l'ammoniac qui provient du site glutaminase. Les deux sites actifs sont séparés de 18 angstroms et l'enzyme utilise un canal pour transférer l'ammoniac entre ces deux sites actifs. Donc, nous avons exploité la connaissance du mécanisme cinétique de la réaction pour cristalliser différents intermédiaires le long du chemin réactionnel. L'enzyme utilise un mécanisme bibiordonné dans lequel le fructose-6-phosphate se lie avant la glutamine et dans lequel le départ du glutamate précède le départ de la glucosamine-6-phosphate. Nous avons donc cristallisé l'enzyme seule, en présence du premier substrat, le fructose-6-phosphate, en présence du premier substrat, le fructose-6-phosphate et d'un analogue de la glutamine, et en complexe avec le produit. Et la comparaison de ces différentes structures va nous permettre de comprendre les changements qui ont lieu au cours de la catalyse. La glucosamine 6-phosphate synthase, donc GLMS, appartient à la superfamille des N-terminales hydrolases. Dans cette famille, il y a activation de l'acide aminé en N-terminal, dans notre cas la cystéine 1, par le groupement alpha-amino, pour former un thiolate qui va attaquer la fonction amide de la glutamine pour former cet intermédiaire tétraédrique. Il y a ensuite hydrolyse de cet intermédiaire pour former cet intermédiaire glutamyl-thioester et relarguer l'ammoniac. Il y a ensuite hydrolyse de cet intermédiaire pour former un deuxième intermédiaire tétraédrique. Puis enfin, formation du glutamate et régénération de la cystéine catalytique. Donc, pour cristalliser l'enzyme avec ces deux sites actifs occupés, on l'a cristallisé en présence de fructose-6-phosphate et d'un inhibiteur irréversible du site glutaminase qui s'appelle le DON pour 6-diazo-5-oxo-norleucine. Le DON forme un adduit avec la cystéine catalytique qui est un intermédiaire qui va en fait, mimer l'intermédiaire glutamyl-thioester lors de l'hydrolyse de la glutamine. On voit que la seule différence entre cet adduit et l'intermédiaire ici, c'est la présence d'un carbone supplémentaire entre la fonction carbonyle et le soufre. La structure de l'enzyme libre a montré qu'il n'y a pas de densité électronique pour les domaines glutaminases, qui sont donc mobiles. Il n'y a également pas de densité électronique pour la boucle C-terminale, composée des résidus 600 à 608, qui est donc également flexible. Et donc, dans ce cas, le site actif reste ouvert au solvant. En présence du fructose-6-phosphate, la boucle C-terminale se réorganise et couvre le site actif, le protégeant du solvant. Dans cette structure, la densité électronique indique que le fructose-6-phosphate est lié sous une forme linéaire et il est à proximité de l'histidine 504, ce qui indique que ce résidu joue un rôle dans la catalyse en permettant l'ouverture du cycle du fructose-6-phosphate. Dans cette structure, il y a maintenant de la densité électronique correspondant au domaine glutaminase qui se sont donc ordonnées. Et le positionnement d'une part de la boucle C-terminale, d'autre part des domaines glutaminase, va permettre de positionner le tryptophane 74 près de cette boucle C-terminale, de l'ancrer dans cette boucle. Et comme on va le voir, ce résidu est très important dans la fonction de l'enzyme. La connaissance des acides aminés à proximité du fructose-6-phosphate a permis de proposer un mécanisme au niveau du site synthase, qui consiste donc en l'ouverture du cycle du fructose-6-phosphate par cette histidine 504, la formation d'une base de chiffre avec la lysine 603 et le groupement carbonyle du substrat, et ensuite une imination par l'ammoniac qui provient du site glutaminase pour former cette fructosimine 6-phosphate. Il y a enfin la formation d'une énolamine par l'abstraction d'un des hydrogènes du carbone 1 par le glutamate 488. Cet intermédiaire énolamine est reprotonné pour former la fructosimine, pour former pardon, la glucosamine 6-phosphate sous forme ouverte, qui est ensuite recyclisée par le même résidu histidine 504. Donc, ce mécanisme a été suggéré d'une part par les structures, mais également par les études biochimiques, bien sûr. Donc, dans la structure en complexe avec le fructose-6-phosphate, les deux sites actifs sont distants de 18 angstroms et ils sont reliés par un canal. Ce canal est formé par la boucle C-terminale de Main synthase, par la boucle histidine qui contient l'histidine catalytique, et également par deux résidus du domaine glutaminase, le tryptophane 74, comme on l'a vu tout à l'heure, et l'arginine 26. La boucle C-terminale est un constituant essentiel du canal. Et comme on a vu qu'elle était flexible dans la structure en absence de ligand, ceci indique que le canal n'est formé qu'après la liaison du sucre. Par contre, même avec le sucre, ce canal est fermé par le groupement indol du tryptophane 74 qui bloque le canal. Lorsqu'on compare la structure de l'enzyme en complexe avec le fructose-6-phosphate en bleu et la structure cristallisée avec le fructose-6-phosphate et le don, donc qui mime la glutamine, on remarque différents changements de conformation. Il y a d'une part la fermeture de la boucle Q sur le site glutaminase qui l'isole ainsi du solvant. Il y a ensuite un repositionnement des acides aminés du site actif, en particulier l'asparagine 98 et la glycine 99. Et ces deux résidus sont des résidus catalytiques clés dans la catalyse, puisqu'ils vont permettre la stabilisation de l'intermédiaire tétrahydrique lors de l'hydrolyse de la glutamine. Enfin, on observe le basculement du groupement tryptophane 74, qui, comme on va le voir tout de suite, va permettre l'ouverture du canal. Donc, la liaison de la glutamine, ici, a en particulier permis à activer la fonction glutaminase de l'enzyme en repositionnant les acides aminés catalytiques à la bonne position. Dans la structure en complexe avec le fructose-6-phosphate et le don, cette fois-ci, le canal est ouvert et les deux sites actifs peuvent communiquer l'un avec l'autre. On peut dire donc que la liaison de la glutamine a permis finalement, la formation de ce canal sous forme ouverte et que le tryptophane 74 joue un rôle de clapet dans l'ouverture et la fermeture de ce canal. Ceci indique donc que le canal sous forme ouverte n'est formé que de façon transitoire dans la catalyse. Donc on peut résumer les changements de conformation de la GLMS de la façon suivante. Dans la forme libre, les domaines glutaminase sont mobiles. La boucle C-terminale est flexible. Les deux sites actifs sont ouverts au solvant. Lorsque le fructose-6-phosphate se lie, il y a fermeture de la boucle C-terminale pour isoler le site synthase du solvant et il y a positionnement des domaines glutaminase par rapport au domaine synthase pour former le canal qui reste cependant fermé par le tryptophane 74. Lorsque la glutamine se lie, il y a fermeture de la boucle Q qui est la porte d'ouverture du site glutaminase. Pour isoler ce site du solvant, il va y avoir ouverture du canal avec basculement du tryptophane 74. Ceci va permettre l'amination du sucre. Il y a enfin départ de la glucosamine 6-phosphate et du glutamate. Donc, je vais maintenant vous parler d'une dioxygénase qui utilise un transfert d'électrons pour catalyser l'ouverture d'un cycle aromatique. Cette enzyme utilise un fer non hémique pour activer l'oxygène. Les dioxygénases bactériennes sont des enzymes clés du métabolisme de dégradation de l'organisme. On va voir comment les structures ont permis de montrer que la liaison directe du substrat aromatique sur le fer va permettre la liaison de l'oxygène, puis son activation, et puis comment ces structures ont permis de confirmer le mécanisme d'activation de la molécule d'O2 et de l'ouverture du cycle aromatique. Une première structure a été obtenue pour l'enzyme seule, ce qui a permis d'identifier les ligands du fer, deux histidines du site actif et un glutamate, ainsi que trois molécules d'eau. Donc, cette structure a été obtenue donc, pour l'enzyme homoprotocatéchoate dioxygénase de la bactérie Brevibacterium fuscum. La structure de l'enzyme a ensuite été obtenue en présence du substrat naturel, la dihydroxyphénylacétate, et cette structure a montré que le substrat se lie directement au fer par l'intermédiaire de ces deux groupements hydroxyles, ce qui crée un site de coordination vacant sur le fer. Dans cette structure, le cycle reste plan. Enfin, l'enzyme a été infiltrée dans une solution qui contient de l'oxygène et un substrat qui se lie lentement avec l'enzyme. Et ceci a permis d'obtenir une structure tétramérique dans laquelle on va pouvoir observer trois différents intermédiaires de la réaction. Dans un premier monomère, le substrat chélate le fer et il y a également, enfin, de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire par l'intermédiaire de ces deux groupements hydroxyles, et de la densité électronique est observée pour un ligand diatomique qui a été attribué à l'oxygène et qui occupe le site de liaison vacant à l'opposé du groupement glutamate. Cette molécule d'oxygène est liée par l'intermédiaire de ces deux atomes d'oxygène d'une façon très particulière. Cette orientation est stabilisée à la fois par des interactions avec cette histidine et cette asparagine. Cette orientation va permettre de positionner l'oxygène à proximité du carbone 2 pour préparer la réaction qui va suivre. Dans cette structure, le cycle n'est plus complètement plan. Et on voit en particulier que le groupement hydroxyle est en dehors du plan, ce qui renforce l'interaction avec cette tyrosine. Et ce changement d'hybridation du carbone 2 va en fait permettre un transfert d'électrons entre le cycle aromatique du substrat et la molécule d'oxygène pour former cet intermédiaire superoxo qui contient le cycle donc sous une forme cation radicale et l'oxygène sous sa forme superoxyde O2-. Dans deux autres monomères, le substrat est lié à l'oxygène directement par une liaison covalente. Dans cette structure, le carbone 2 est complètement tétraédrique. Une des liaisons entre le fer et ce carbone 2, et l'oxygène est coupée. Et par contre, il y a une interaction importante entre cette histidine et le deuxième oxygène, ce qui suggère que cette histidine joue un rôle important dans la catalyse en protonant cet oxygène et en favorisant la coupure de la liaison OO. Enfin, dans un dernier monomère, il y a coupure de la liaison entre le carbone 2 et le carbone 3 du substrat, donc formation du produit, mais le substrat reste lié par l'intermédiaire de son groupement carboxylate et de son groupement carbonyle au fer. Dans cette structure, les liaisons qui ne sont plus en interaction avec le fer sont libres au niveau de la rotation, ce qui est visible par l'absence de densité électronique pour certains atomes. Donc, la comparaison de ces différentes structures, enzymes libres, complexes enzymes substrats, intermédiaires superoxo et alkylperoxo, enzyme produit a permis de proposer un mécanisme donc pour cette réaction. Ça a permis en particulier de voir que le substrat aromatique et l'oxygène se lient simultanément à l'enzyme dans des sites adjacents. Ça a permis de comprendre comment le fer va transférer les électrons entre le substrat aromatique et l'oxygène, et en particulier comment ce transfert d'électrons va induire un changement de géométrie au niveau du substrat. Il n'est plus plan, ce qui va favoriser l'attaque par l'oxygène. Cette attaque par l'oxygène a lieu au niveau de l'intermédiaire superoxo pour former cet intermédiaire alkylperoxo. Il y a ensuite coupure de la liaison OO aidée par l'histidine 200 pour former cet intermédiaire 4, puis former le produit 5. Donc je vais maintenant vous parler de l'enzyme QEE qui utilise un mécanisme radicalaire pour catalyser une réaction de contraction de cycle dans ce cas-là. C'est une réaction qui dépend à la fois de la S-adénosylméthionine, qui est appelée adomète ou SAM, et du magnésium. Cette réaction est importante pour la transformation de la guanine du GTP en 7-déasaguanine, structure qui se retrouve dans plus de 30 produits naturels et dans la base modifiée cuosine qui est présente dans les ARN de transfert. C'est une réaction chimique très difficile puisqu'elle consiste d'une part en l'ouverture du cycle à 6, ici, le départ d'ammoniac puisque le groupement NH2 sur ce carbone 6 doit partir, la reformation d'un cycle à 5 et enfin la déprotonation d'un de ces deux hydrogènes. L'enzyme QEU est une enzyme radicalaire de type radical SAM. Et cette superfamille d'enzymes a été identifiée en 2001 et contient à ce jour environ 50 000 membres qui catalysent toute une grande variété de réactions chimiques différentes. Dans tous les cas, la réaction commence par la réduction d'un cluster fer-soufre du site actif par un électron qui provient en général d'une flavodoxine. Il y a ensuite un transfert d'électrons entre le cluster fer-soufre et la SAM. Ceci va conduire à la coupure de la SAM pour former la méthionine et un radical 5'-déoxynadénosyle. Celui-ci est extrêmement réactif et il va permettre de couper une liaison CH, même non activée, pour former soit un produit radicalaire, soit pour initier toute une cascade de réactions chimiques. La structure de l'enzyme QEE de la bactérie Bulcoderia multivorans, en complexe avec un analogue de substrat, ici une ptérine avec un cycle à 6, a montré que cette enzyme est une enzyme radicale SAM très particulière. D'une part, au niveau de son repliement, puisque trois des hélices du feuillet bêta 6 alpha 6 qui a un repliement caractéristique des radicales SAM, sont remplacés donc par trois hélices, d'autre part, au niveau de son motif de liaison du cluster fer-soufre. Puisque celui-ci est étendu, il y a une insertion dans la séquence qui se replie sous forme d'hélice, ce qui va permettre un enfouissement plus profond et donc à une protection de ce cluster dans la structure de QEE. Trois édatomes du fer du cluster fer-soufre sont liés aux trois cystéines de ce motif, tandis que le quatrième fer fait des liaisons hydrogènes avec les groupements nitro et carboxylate de la SAM. Les interactions entre la protéine et la SAM indiquent que le radical 5'-déoxyadénosyle, une fois formé, ne pourra pas former de produit secondaire. L'analogue de substrat est lié de façon perpendiculaire à la SAM. Les structures de l'enzyme ont également été obtenues en complexe avec le substrat et en complexe avec le produit, et également avec les cofacteurs, la SAM et le magnésium. Le substrat est lié par l'intermédiaire de liaison hydrogène et par l'intermédiaire d'interaction d'empilement avec cette phénylalanine et cette histidine. la distance de 3,9 angström entre le carbone C5' de la SAM et le carbone 6 du substrat indique que le radical 5' déoxyadénosyle, une fois formé, est bien positionné pour arracher un hydrogène du carbone 6. Les interactions du magnésium avec les groupements carbonyl du carbone 4 du substrat et le groupement carboxylate du carbone 6 sont importantes, puisqu'il a été montré que ces interactions ne sont pas présentes dans les structures en complexe avec le manganèse et avec le sodium, qui sont des métaux qui n'accélèrent pas la réaction. Il a donc été proposé que le magnésium joue un rôle dans la catalyse en aidant à la déprotonation du carbone 6 par le radical 5' déoxyadénosyle. La structure en complexe avec le produit est très similaire à celle avec le substrat, sauf cette fois-ci le produit est plan. Mais les interactions au niveau du magnésium sont similaires. L'obtention de ces deux structures en complexe avec le substrat et avec le produit a permis de proposer un intermédiaire réactionnel et de le modéliser. Cet intermédiaire porterait les groupements carboxylate et amino sur le carbone 5 et il porterait un radical sur le groupement amino du carbone 5. Et dans le modèle, le radical serait positionné suffisamment proche du carbone C5' de la SAM pour qu'il puisse jouer un rôle et permettre de déprotoner la déoxyadénosine, le 5' déoxyadénosine, pour régénérer le radical 5' déoxyadénosyle. Dans ce modèle, le magnésium est correctement positionné pour aider au départ de l'ammoniac du carbone 5 et le glutamate en position 116 est correctement positionné pour déprotoner le carbone 8 et permettre la formation du produit. Donc je vais enfin vous parler d'une enzyme qui cible cette fois-ci une macromolécule et qui va modifier spécifiquement un nucléotide dans certains ARN de transfert. Donc les ARN de transfert sont des molécules clés qui permettent la lecture de l'information génétique qui est portée par l'ARN messager et qui va le traduire en acides aminés constituant des protéines. Pour cela, au sein du ribosome, il y a une interaction spécifique entre le codon de l'ARN messager et la partie anticodon de l'ARN de transfert qui porte les acides aminés et qui va permettre donc l'assemblage de ces acides aminés pour former la chaîne polypeptidique de la protéine. Mais pour être fonctionnelles, ces ARNT doivent subir une maturation post-transcriptionnelle et en particulier la modification chimique de certains nucléotides. Et l'enzyme MNMA catalyse le remplacement de l'oxygène du carbone 2, de l'uridine 34 qui est présent dans l'anticodon de certains ARN de transfert par un soufre. Ces ARN de transfert substrat de MNMA sont l'ARNT glu, l'ARNT glutamine et l'ARNT lysine qui, en plus de posséder une uridine en position 34, possède également une uridine en position 35. Cette réaction de thio-uridylation nécessite un cofacteur, l'ATP, et également un relais de transfert de soufre qui implique 6 protéines, qui va permettre le transfert du soufre qui est présent sur le persulfure de la protéine ISCS vers l'enzyme MNMA. Les différents persulfures sont portés par des cystéines des sites actifs. En particulier, pour MNMA, il s'agit de la cystéine 199. Les donneurs de soufre sont en général extrêmement réactifs et on va voir comment la protéine va permettre leur protection afin que le soufre soit délivré au moment voulu, à l'endroit voulu. Trois structures de l'enzyme MNMA ont été obtenues. La cristallisation de l'enzyme avec l'ARNT glu a permis d'obtenir deux structures, une de la forme ouverte qui lie l'ARNT et une qu'on appelle de pré-réaction, dans laquelle la structure n'est plus ouverte la conformation de la protéine est plus ouverte, mais elle est fermée. Enfin, un complexe ternaire a été obtenu en faisant réagir l'enzyme MNMA avec l'ARNT glu et l'ATP, ce qui permet la formation d'un intermédiaire adénylé. Et la structure de cet intermédiaire a été obtenue. La comparaison de ces différentes structures va permettre de comprendre les étapes du mécanisme. La structure a montré que l'enzyme MNMA est constituée de trois domaines qui sont complémentaires de la forme en L de l'ARN de transfert et interagissent avec les tiges D et la boucle anticodon, qui est cible de la réaction, puisque l'uridine 34 est ici. Ces structures ont montré que l'uridine 34 et l'uridine 35, qui est présent dans les substrats ARNT de MNMA, sont retournées. Et leur conformation est maintenue grâce à des interactions de van der Waals et des liaisons hydrogènes, en particulier avec ces deux groupements glutamine. La structure de la forme 1 a montré qu'un segment dit variable, qui contient la cystéine catalytique et qui est en bleu, s'organise sous forme d'hélice HV suivie d'une partie non ordonnée. Dans cette structure, l'enzyme adopte une conformation ouverte, ce qui permet la liaison de l'iridine 34 de l'ARNT. L'oxygène du carbone 2 de l'uridine 34 fait des interactions spécifiques avec la glutamine 151 et la cystéine 199 fait un pont disulfure intramoléculaire avec une autre cystéine du site actif, la cystéine 102. Dans la structure dite de pré-réaction, il y a un réarrangement de la partie variable pour former une courte hélice, un petit feuillet bêta et une longue boucle LV. Dans cette forme, l'enzyme adopte une conformation fermée, cette fois-ci, parce que le site actif est protégé maintenant par la grande boucle LV et le petit feuillet bêta V qui se sont réorganisés. Et cette réorganisation structurale va permettre, en fait, à l'uridine 34 de se rapprocher du site actif, puisqu'il y a un réarrangement de 140 degrés en fait, de cette uridine, qui va rompre la liaison qu'il y avait entre l'oxygène du carbone 2 et la glutamine 151, et qui va activer finalement ce résidu pour la réaction d'anélination qui va suivre. La structure 3 est très similaire à la structure 2, sauf que l'uridine 34 a subi une rotation encore de 30 degrés, et elle est adénylée. En effet, on observe de la densité électronique qui correspond à cette partie adényle, qui provient de l'attaque du groupement alpha-phosphate de l'ATP sur l'uridine. Dans cette structure, l'aspartate 99 est positionné à proximité de l'azote 3 de l'uridine cible. Et donc, on peut proposer qu'elle joue un rôle pour déprotoner l'azote 3 et faciliter la réaction d'adénylation. Dans cette structure, le motif dit PP-loop participe à la catalyse en permettant la liaison des groupements bêta et gamma phosphate de l'ATP. En particulier, l'aspartate 17 aide à la libération du produit pyrophosphate. Et en particulier, on observe un groupement sulfate dans la densité électronique à proximité du phosphate de l'intermédiaire adénylé qui mime le groupement pyrophosphate PPI. Dans cette structure, les deux cystéines catalytiques sont sous forme réduite. Et donc, il s'agit d'une forme activée de la protéine, activation sans doute grâce à la liaison du substrat et à son adénylation. La cystéine 199 est proche du carbone 2 de l'uridine. Et on peut donc proposer que c'est cette cystéine 199 qui va accepter un soufre d'un persulfure provenant du système de relais du soufre. Ce persulfure va attaquer le carbone 2 de l'intermédiaire adénylé et ce transfert de soufre va être aidé par l'aspartate 99. Il y aura ensuite départ de la molécule d'AMP et attaque de la cystéine 102 sur le groupement persulfure qui va permettre son clivage et qui va permettre de libérer le produit et de régénérer le pont disulfure intramoléculaire. Donc ces différentes structures qui ont été obtenues, état initial de liaison de la RNT, l'état dit de pré-réaction et l'intermédiaire adénylé sont des étapes finalement successives du mécanisme réactionnel. Elles ont permis de montrer que l'enzyme subit une transition pour passer d'une forme ouverte à une position fermée, qui permet d'une part de rapprocher l'uridine cible du site actif, d'autre part de créer une cavité fermée qui va isoler le soufre qui est très réactif pendant la réaction de transfert de soufre. Et ça a permis également de montrer que l'aspartate 99 pourrait jouer un rôle d'acide-base dans la catalyse. Donc, en conclusion, on peut dire que la fonction des enzymes est d'une part de fournir les groupements chimiques réactifs pour la catalyse, mais également de les positionner correctement tout au long de la catalyse. C'est pour cela que les enzymes doivent subir des changements de conformation. Les sites actifs ont en général été optimisés au cours de l'évolution et l'efficacité catalytique des enzymes est limitée par leur mouvement. Nous avons vu donc quatre cas de protéines. L'enzyme GLMS qui catalyse un transfert d'ammoniac entre ces deux substrats. On a vu comment le canal se forme et s'ouvre à différents moments de la catalyse en fonction de la liaison des substrats. On a vu d'autre part comment le substrat aromatique de la dioxygénase en se liant directement au fer va permettre la liaison du fer. Comment le fer va aider au transfert d'électrons entre les deux substrats et comment l'histidine 200 va aider à la coupure de la liaison OO de l'oxygène. Enfin, nous avons vu avec la protéine QE un exemple où le groupement cluster fer-soufre et la SAM vont permettre de générer un radical très réactif, la 5' déoxyadénosyle, qui va arracher spécifiquement un hydrogène du substrat. On a vu comment le magnésium et un glutamate du site actif allaient aider à la fermeture du cycle. Enfin, on a vu comment une enzyme MNMA cible une position particulière d'une macromolécule en plaçant un soufre très réactif. Comment elle a utilisé finalement un mécanisme d'activation de l'uridine par l'ATP pour former un intermédiaire adénylé, et également comment elle a utilisé un mécanisme de transfert de soufre qui utilise donc deux cystéines du site actif et un réseau de protéines. Je vous remercie de votre attention.